Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Voyez votre Esprit, Seigneur, se faire une création nouvelle.
Et vous mourrez à notre tête.
Ayant Dieu qui avait daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien. Et jouez sans cesse ces divines consolations pour le même Jésus-Christ, notre Seigneur.
Ainsi soit-il.
Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.
Nos saints anges gardiens,
veillez sur nous.
Saint Pédis,
priez pour nous.
Saint Joseph,
priez pour nous.
Saint Thomas d'Aquin,
priez pour nous.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bon, nous avançons dans cette étude du serment antimoderniste, qui est en quelque sorte un résumé de toutes les erreurs du modernisme. Rappelez-vous que lorsque le pape Saint-Pédis a condamné le modernisme, il a dit que c'est un égout collecteur de toutes les hérésies. Donc il y a tout là-dedans. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre cette synthèse, c'est pour ça que j'ai appelé cette conférence, j'ai donné comme titre « Synthèse du modernisme hein, », parce que c'est un résumé en quelque sorte de tout ce qu'enseignent et croient les modernistes. Alors il n'y a pas, c'est génie de Saint-Pédis c'est une personne qui a un esprit de synthèse extraordinaire, un peu comme Saint Thomas d'Aquin. Il a su synthétiser les choses, parce que souvent la difficulté avec le modernisme, c'est que ça part dans tous les sens. Ce que dit Saint-Pédis, vous lisez une page, c'est catholique, vous tournez la page, la page suivante, c'est complètement hérétique. Bon. Alors, je vous rappelle ce qu'on a déjà vu ensemble. Donc, on a vu que pour lutter contre le modernisme, premier point, Dieu est peut-être connu par la raison. Donc, on peut croire en Dieu sans avoir la foi. La foi se rajoute. Bon. Mais on peut prouver l'existence de Dieu, l'existence de l'âme, l'existence d'un Dieu qui récompense les bons et punit les méchants, simplement par l'usage de la raison. Deuxième, est-ce que vous rappelez le nom de l'hérésie qui dit qu'il faut la foi pour croire en Dieu, même naturellement?
C'est le protestantisme.
Non. Comment s'appelle l'hérésie?
Fidéisme.
Fidéisme, c'est ceux qui disent qu'on ne peut pas croire en Dieu par la lumière naturelle de la raison, qu'il faut la foi systématiquement. Bon. Deuxième point qu'on a déjà vu. Dieu a prouvé l'existence, a prouvé sa divinité par des faits divins, surtout les miracles et les prophéties, justement pour travailler sur notre intelligence. Troisième fait, troisième point. Merci. Donc, l'Église, gardienne et maîtresse de la parole révélée, a été instituée immédiatement et directement par le Christ en personne lui-même. On en est au quatrième point ou cinquième? Cinquième, je crois qu'on a déjà fait. Donc, quatrième point. Je rejette absolument l'invention hérétique de l'évolution des dogmes. Hein? Alors pour vous donner un peu une idée, j'ai parlé il y a deux jours avec une personne qui est complètement moderniste et qui se prétend catholique, mais qui nie complètement l'infaillibilité pontificale. Parce qu'elle bricole tellement l'infaillibilité pontificale qu'il n'y en a plus. Elle disparaît complètement. Alors, si vous posez cette question, c'est ça qu'il faut comprendre chez le moderniste. Le moderniste qui nie l'infaillibilité pontificale. Si vous lui posez la question, est-ce que vous croyez en l'infaillibilité pontificale? Il vous dit oui, j'y crois. Il dit bon, très bien, voilà un texte de Pie IX, par exemple, du 1864, qui condamne la liberté de conscience. C'est un texte infaillible. Donc vous croyez en l'infaillibilité pontificale? Oui. Donc vous allez suivre ce texte pour 2022. Ah non! Alors, venez de me dire que c'est infaillible. Oui, mais c'est infaillible pour 1864. Ça, c'est modernisme. Donc, vous voyez, ils ont toujours une façon de s'en tirer. Ils vont dire, oui, ce texte est effectivement infaillible en son temps, mais aujourd'hui, les choses ayant changé, ce qui était vrai en 1864 ne l'est plus aujourd'hui. Qu'est-ce qui est à la base de ça? Quelle est l'erreur philosophique qui est à la base de ça?
L'évolutionnisme.
Vous rappelez les trois fondations?
Oui.
Répondez pas tous en même temps.
L'immanentisme.
L'évolutionnisme.
L'agnosticisme.
Non, l'agnosticisme. Vous savez bien sûr par cœur comment m'expliquer tout ça, n'est-ce pas? Bon, on ne va pas revenir là-dessus parce qu'on va partir dans un cours qu'on a déjà expliqué 25 000 fois. Alors, on avance. Cinquième point. Je tiens très certainement et professe sincèrement que la foi n'est pas un sentiment religieux aveugle qui émerge des ténèbres du subconscient sous la pression du cœur et l'inclination de la volonté moralement informée, mais qu'elle est un véritable assentiment de l'intelligence à la vérité reçue du dehors, de l'écoute, par lequel nous croyons vrai à cause de l'autorité de Dieu souverainement véridique ce qui a été dit, attesté, révélé par le Dieu personnel, notre Créateur et notre Seigneur. Ça, c'est un point extrêmement important. La foi n'a rien à voir avec les sentiments. Bon, beaucoup de gens veulent sentir quelque chose. La foi ne travaille pas avec les sentiments. La foi est au-dessus des sentiments. Même si vous ne sentez rien, si vous attendez de sentir quelque chose pour croire, vous pouvez attendre pendant longtemps. Et si vous, comme les sentiments sont différents pour chaque personne, si vous basez tout sur les sentiments, ben chacun va avoir sa propre façon de croire. Vous voyez ? Et je donne toujours comme exemple la Sainte Communion. Et des jours, vous communiez, vous êtes plein du bon Dieu, tout va très bien, vous êtes en grande forme, vous avez fait une bonne action de grâce, vous sentez vraiment la présence de notre Seigneur Jésus-Christ dans la Sainte Hostie que vous venez de recevoir. Bon, la semaine suivante, vous communiez, puis rien. Vous êtes froide comme un glaçon. Bon, vous savez, je ne sens plus rien. J'ai des gens qui sont venus me voir, me disant, monsieur l'abbé, je pense que vous avez oublié de mettre le bon Dieu dans le stick que vous m'avez donné. Parce que la semaine dernière, j'ai senti quelque chose, là, j'ai rien senti du tout, donc Dieu n'est pas là. Vous voyez ? J'ai vu leur dire, excusez-moi, mais le stick vient du même ciboire, consacré le même jour. Bon. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, la foi n'a rien à voir avec les sentiments. Les gens veulent bien croire, mais ils veulent sentir quelque chose, sentir leur foi. Non, même si vous ne sentez rien du tout, la foi est au-dessus des sentiments. C'est capital, absolument capital à comprendre. Parce que souvent, les gens, au lieu de rechercher le Dieu des consolations, on dit qu'ils recherchent les consolations du bon Dieu. C'est-à-dire, ils veulent bien suivre notre Seigneur Jésus-Christ à condition de sentir quelque chose. Alors, dans ce cas-là, c'est très dangereux, ça. Pourquoi ? Parce que du coup, les gens vont suivre notre Seigneur Jésus-Christ quand ils se sentent bien. Le jour où ils se sentent mal, mon Dieu, ils passent à la trappe. Vous voyez ? Ça, c'est absolument fondamental à comprendre. Hein? Donc la foi n'est pas un sentiment religieux aveugle qui émerge des sentiments du subconscient. Les modernistes vont jusqu'à dire que tout dépend des sentiments. Est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ est vraiment ressuscité des morts ? C'est comme vous voulez. C'est comme vous sentez. Si vous sentez dans votre subconscient que notre Seigneur Jésus-Christ est ressuscité des morts, c'est bon, il est ressuscité dans les morts. Mais si vous ne sentez rien du tout, ben, il n'est pas ressuscité entre les morts. Vous voyez ? Donc attention à ça. Donc, nous croyons que le bon Dieu nous a donné une intelligence dont l'objet formel est le vrai. Dieu nous a donné en nous un moyen d'atteindre la vérité, ce qu'on appelle l'intelligence. Donc l'intelligence a pour but de nous faire découvrir la vérité. Et quelle est le deuxième pouvoir de notre âme qu'on va utiliser pour atteindre la vérité?
Raison.
Non, la volonté. Ah. Donc l'intelligence pour savoir où est le vrai et la volonté pour l'atteindre. Ça suffit pas de savoir où est le vrai. Ah ben le vrai il est là. Très bien. Voilà, il est là-haut. Moi je suis là. Allez, au revoir. Il faut encore l'atteindre ce vrai. Donc il faut utiliser l'intelligence pour savoir où est le vrai. Une fois qu'on a découvert où est le vrai, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser notre intelligence pour atteindre le vrai. Si on cherche à bouger son intelligence pour atteindre le vrai, qu'est-ce qui va s'en mêler? Le démon à tous les coups. Donc il va falloir vaincre les obstacles qui vont se rencontrer dans la poursuite du vrai. Quelle est la puissance de l'âme qu'on utilise à ce moment-là? Comment ça s'appelle? La puissance de l'âme que j'utilise pour lutter contre les obstacles. L'irascible. Vous ne pouvez pas me dire mais ça me dit vaguement quelque chose. Vous avez déjà parlé de ça avant? Non. Il faut bien comprendre. Donc l'intelligence pour savoir où le vrai, la volonté pour l'atteindre, l'irascible pour se battre contre les obstacles. Ira en latin, c'est la colère. Et ensuite, il faut soumettre les passions pour empêcher que les passions partent dans tous les sens. Ça, c'est le rôle du concupiscible. Concupiscible, concupiscere en latin, c'est le désir, le désir ardemment les choses. Hein? Rappelez-vous, il y a trois concupiscences des yeux. les yeux, l'œil, l'orgueil et la chair. Et donc, il va falloir soumettre tout ça. Oui, donc, continuant les catholiques, elle va soumettre les passions à l'irascible, l'irascible à la volonté à l'intelligence. Voilà. Bon. Alors, c'est là, puisque Saint Pédis nous dit que il va falloir qu'on suive une véritable, qu'on ait un véritable assentiment de l'intelligence à la vérité reçue du dehors. Donc, la vérité ne vient pas du dedans. Donc, dans cette pièce, il y a cette personne, eh bien, il y a une vérité. Chacun n'a pas sa vérité. Sinon, on tombe dans, comment ça s'appelle, l'erreur philosophique. Subjectivisme. Subjectivisme, c'est ça, je crois. J'ai impressionné. Vous n'avez pas tout oublié, c'est magnifique. Pourvu que ça dure. Bon, donc le subjectivisme, c'est ça. Subjectivisme, c'est chacun fait sa vérité. La vérité, elle existe indépendamment de nous-mêmes. Ce n'est pas nous qui faisons notre vérité. Même si vous avez des millions de personnes qui examinent la même vérité, la vérité sera unique. Bon. Si je commence à penser que chacun peut avoir sa propre vérité, on tombe dans le protestantisme. D'accord ? Alors, comment ça fonctionne ? Donc, je vous ai déjà un petit peu expliqué, mais je vais réexpliquer pour que ça soit bien compris. Comment est-ce qu'on découvre la vérité ? Les choses qui sont autour de nous. Bon. Qu'est-ce qui va servir d'intermédiaire entre le corps et l'âme ? On nous a donné un corps et une âme. D'accord ? L'âme, c'est la forme du corps. Bon. Il y a des gens qui ont un corps séparé de leur âme, mais ils sont dans une boîte qu'on appelle un cercueil dans un cimetière. Bon. Vous n'êtes pas encore dans cette boîte, donc vous avez un corps et une âme qui travaillent ensemble. L'âme, c'est la forme du corps. Donc, l'âme, c'est la vie, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'au moment de la mort, il y a séparation entre le corps et l'âme, parce que la vie va quitter le corps va tomber en putréfaction, et va devenir la nourriture des vers. Bon. Donc, pour pouvoir utiliser... l'âme va travailler avec le corps. L'âme n'est pas indépendante du corps, puisque c'est la forme du corps. Pour comprendre les choses qui se passent à l'extérieur, comment ça se fait, l'âme va utiliser les cinq sens. Donc on a des sens pour voir, pour toucher, pour goûter, pour sentir, etc. C'est ce qu'on appelle les cinq sens. Et ces cinq sens vont être en contact avec le particulier, ce qu'on appelle le particulier en philosophie, ou avec l'extérieur. On va voir les choses, on va sentir les choses, on va goûter les choses, on va entendre les choses, etc. Et donc, les sens vont prendre en quelque sorte la température extérieure et vont transmettre au cerveau une image de ce qui se passe à l'extérieur. Donc, les sens travaillent sur le particulier, les choses individuelles, et le cerveau fait une analyse synthétique de tout ça. C'est pour ça qu'on dit que le cerveau a travaillé sur l'universel. Lorsque l'image qui est dans le cerveau correspond à la réalité extérieure, on est dans le vrai. Si au contraire, l'image qui est dans le cerveau n'est pas la même que celle qui existe à l'extérieur, on est dans le faux. D'accord ? T'as compris ? Si je pose une question, on y va la prochaine fois, tout le monde me répond avec un grand sourire, c'est ça ? Bon, c'est la définition de saint Thomas. Adequatio reiet intellectus. C'est-à-dire la concordance entre la chose extérieure et l'intelligence. Alors, comme chacun d'entre nous, on a une série de sens. Alors, votre façon, vos yeux à vous travaillent pour votre cerveau. Les miens, mes yeux à moi, travaillent pour mon cerveau. Mais même s'il y a cette personne dans cette salle, chacun va analyser les choses qui existent à l'extérieur avec ses propres sens. Vous n'allez pas utiliser mes yeux pour regarder les choses qui sont autour de vous. Vous allez utiliser les vôtres. Vous n'allez pas utiliser mes doigts pour sentir les choses. Vous allez utiliser vos propres doigts. Mais quel que soit ce que vous faites, vous devez arriver à la même conclusion puisqu'on regarde la même chose. Donc à l'intérieur de nous-mêmes, l'image qu'on doit avoir dans l'âme doit être la même pour vous et pour moi. D'accord ? Même si les sens sont différents. Si, encore une fois, l'image extérieure, si les choses extérieures et l'image intérieure concordent, on est dans le vrai. C'est ce qu'on appelle l'objectivisme. Objectivisme, c'est-à-dire que l'objet extérieur, et je me soumets à l'objet extérieur. Ce n'est pas moi qui décide comment se comporte l'objet extérieur, je me soumets à l'objet extérieur. Au contraire, si je fabrique ma propre vérité, au lieu de me soumettre à la vérité, je fais ma propre vérité, on tombe dans le subjectivisme. Donc, et qui peut donner un synonyme d'objectivisme.
Liberté. Ah non.
Le réalisme est un synonyme du subjectivisme, l'idéalisme. Bon, la philosophie de saint Thomas d'Aquin est donc une philosophie objectiviste ou réaliste, les deux pieds sur la terre. Dans le monde moderne, ils ne veulent plus de ça. Ils ont une philosophie subjectiviste, idéaliste. Dans le monde moderne, ils utilisent un autre terme qui dit bien ce que ça veut dire. Ils vivent dans l'artificiel. Bon, c'est plus le réel, c'est le... Il y a un mot, je suis...
Virtuel.
Le virtuel, c'est ça, le mot que je cherchais. Ils vivent dans le virtuel tout le temps. C'est ça le danger des écrans. Les écrans, au fond, vivent dans le virtuel à longueur de journée. On a l'impression que cette chose existe, mais en fait, ça n'existe pas. D'accord ? Parce que c'est fabriqué extérieurement. Et donc, si je reconnais que... Si je pense que la foi est un simple sentiment qui émerge des ténèbres du subconscient, à chacun sa foi. Chacun va faire sa propre foi. Chacun va croire un petit peu comme il veut. C'est pour ça qu'il y a un terme qu'on voit tout de suite un moderniste. Le moderniste, il utilise toujours une phrase, toujours la même. Je pense que. À partir du moment où on est catholique, quand on vous demande un point de catéchisme, il ne faut pas répondre je pense que, mais. Le catéchisme m'enseigne que, pas pareil. Parce que si, quand quelqu'un dit « je pense que », s'il y a cette personne qui dit « je pense que », on peut avoir sept vérités différentes, à chacun sa vérité, comprenez ? Or, la vérité existe indépendante de nous-mêmes. Donc ce n'est pas ce que je pense, mais ce que pense l'Église. Et donc ça, c'est dirigé par le don de sagesse. Hein, c'est pour ça que je compte donner dimanche prochain. Le don de sagesse, c'est un don du Saint-Esprit, qui va nous aider justement à soumettre notre intelligence à Dieu. Sinon, je tombe dans le subjectivisme, et là, chacun va avoir sa propre idée de Dieu. Non, on n'a pas notre propre idée de Dieu. On est obligé de suivre le même Dieu, parce que Dieu existe indépendamment de nous-mêmes. À partir du moment où je suis catholique, un catholique doit accepter l'intégralité des dogmes de la foi catholique, même si vous ne sentez rien du tout, même si vous n'aimez pas tel ou tel dogme. Je dis souvent ça, ça choque un peu les gens quand je le dis comme ça, mais c'est pourtant vrai, le bon Dieu ne vous demande pas d'aimer les dogmes, il vous demande de les accepter. Il se fiche complètement, vous les aimez ou non. Dieu étant Dieu, ne peut pas se tromper ni nous tromper. Donc Dieu commande, j'obéis, ça plaît ou ça ne plaît pas. Il vaut mieux que ça plaise, parce que si ça plaît, c'est plus facile d'obéir. Mais Dieu nous demande d'obéir, même si, les dons, si la vérité ne nous plaît pas. Dans le modernisme, j'accepte telle chose, on m'enseigne quelque chose, on discute la chose pendant des heures et des heures, et j'accepte la chose si elle me plaît, si je la comprends. J'accepte la chose si je suis d'accord avec cette chose. Sous-entendu, si je ne suis pas d'accord avec la chose que vous voulez m'imposer, je la refuse. Donc, le moderniste, si vous voulez, est un monstre d'idéalisme, un monstre d'indépendance. Le moderniste est un fanatique d'indépendance. Je ne servirai pas. Il en fait quand c'était tout le temps. Vous voyez ? Alors, ces choses sont extrêmement, extrêmement... important parce que le subjectivisme est à la base de tout le modernisme actuel. Et c'est parce que le subjectivisme est là que les gens ont tellement de mal pour arriver à y comprendre quelque chose. Parce qu'ils veulent se sentir. Vous voyez ? Donc mettez-vous dans une chose, mettez une chose dans la tête, la foi n'a rien à voir avec les sentiments. Dieu peut donner un peu de sucre de temps en temps, mais même s'il n'en donne pas, il faut croire. Vous voyez ? Alors, les vérités, aussi une chose très importante, les vérités sont unies entre elles. C'est comme les anneaux d'une chaîne. Couper un anneau, tout s'écoule. Imaginez qu'il y a, je sais pas, 150 dogmes de la foi. Imaginez quelqu'un qui dise « Je crois en tous les dogmes de la foi sauf un. » Ce qui est hérétique.
Oui.
Oui. Si Si quelqu'un te dit, je crois en tous les dogmes de la foi, sauf 149 d'entre eux. Je n'accepte qu'un seul de ces dogmes. Est-ce qu'il est hérétique? Oui. Est-ce qu'il y a une différence entre l'hérésie de la première personne et l'hérésie de la deuxième personne? Strictement parlant, non. Dans les deux cas, ils n'ont pas la foi. Mais il vaut mieux croire à 149 dogmes de foi sur 150 que de croire en un seul dogme sur 150. C'est complètement faux. Pourquoi? Parce que si je dis il y a un dogme qui est faux, qu'est-ce que ça sous-entend? Que Dieu s'est trompé sur ce dogme. Si Dieu s'est trompé sur ce dogme, ça veut dire quoi?
Il n'est pas Dieu.
Il n'est pas Dieu. Vous voyez? Il n'est pas Dieu. Et donc, tout, c'est faux. Vous voyez? Comme un exemple classique, c'est ce qui est arrivé à Judas. Judas et Saint-Pierre, je donne toujours cet exemple, Judas et Saint-Pierre, tous les deux ont renié notre Seigneur Jésus-Christ de façon très grave. C'était un péché mortel et pour Judas et pour Saint-Pierre. Mais Judas a refusé la vérité connue comme telle. C'est un péché contre le Saint-Esprit. Et un péché contre le Saint-Esprit, tant qu'on reste dans cette situation, devient impardonnable. C'est pour ça que Saint Judas, qui ne croyait pas en la grandeur infinie de la miséricorde de Dieu, n'a pas pu être sauvé. Voilà, qu'est-ce qu'a dit Judas? J'ai déjà expliqué souvent. Judas s'est dit, mon péché est impardonnable. Pourquoi? Parce qu'il est trop grand. Donc en disant, mon péché est impardonnable parce qu'il est trop grand, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu n'est pas capable de pardonner mon péché. Donc Dieu n'est pas tout puissant. Si Dieu n'est pas tout puissant, Dieu n'est pas Dieu. Vous voyez? Et ça, c'est fondamental, hein? C'est fondamental parce que c'est rentré maintenant dans les têtes, dans la tête de beaucoup de gens, cette espèce d'idée que il vaut mieux être catholique à 95% que d'être catholique à 50%. Et on ne comprend pas qu'un catholique à 95% n'est déjà plus catholique. On ne peut même pas dire celui qui croit en 149 dogmes de foi sur 150 est plus proche de Dieu que celui qui ne croit en un dogme sur 150. Dans les deux cas, les gens sont loin de l'Église. Pourquoi? Parce qu'ils mettent en doute la véracité de Dieu. Dieu n'est pas Dieu parce qu'il peut se tromper. Qui se trompe sur une petite chose, qui se trompe sur une grande chose, ça ne change rien pour Dieu. Si Dieu se trompe, c'est qu'il n'est pas Dieu. Vous comprenez ce que je vous dis là? Alors, c'est très difficile parce que c'est rentré maintenant dans les mœurs. Les gens, si vous voulez, quand on leur explique la foi catholique, ils vont être d'accord ou pas d'accord? Si je donne une liste de textes essentiels de la foi catholique, par exemple un texte comme celui-ci à des gens qui sont modernistes, ils vont lire ça, puis ils vont dire là je suis d'accord, là je suis pas d'accord, là je suis d'accord en partie, là ils se trompent dans la première partie, je suis d'accord en deuxième partie. Vous voyez? Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on est devant la foi ne se discute pas. On ne discute pas les choses. Quand on commence à discuter les choses qui sont indiscutables, on se met déjà dans la peau du démon. On a déjà perdu la foi. L'exemple classique de ce que j'essaie de vous expliquer, c'est avec la moralité. Prenez les élections par exemple. Savoir si on accepte l'avortement ou non dans un pays. C'est la politique ça. Bon. Donc voilà la question qui va être posée aux électeurs. Est-ce que vous acceptez ou rejetez l'avortement dans votre pays? L'avortement est interdit par la loi de Dieu parce que Dieu a dit « tu ne tueras pas ». C'est le cinquième commandement. Donc à partir du moment où je mets aux voix une vérité essentielle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je nie que Dieu m'a donné cette vérité. J'accepte de poser comme base, si vous voulez dire raisonnement, que Dieu peut se tromper quand il me dit tu ne tueras pas. Vous comprenez ce que je dis? Ça, c'est fondamental à comprendre. Et peu de gens l'ont compris, malheureusement. La plupart des fidèles ne comprennent pas ça parce qu'ils sont tombés dans une espèce de subjectivisme. Donc, la foi, encore une fois, n'a rien à voir avec les sentiments. Alors, je répète cette cinquième vérité. Donc je tiens très certainement, professe sincèrement, que la foi n'est pas un sentiment religieux aveugle qui émerge des ténèbres du subconscient. Donc Saint-Pédis, dans son encyclique, Pachandi, va jusqu'à dire que la foi catholique disparaît complètement pour les modernistes. La seule chose qui va rester pour les modernistes, c'est un sentiment, un vague sentiment, sentiment de l'amour. Je sens que. Bon. C'est comme les gens qui me disent, je sens que telle personne est une belle âme. Vous sentez peut-être bien, peut-être que vous sentez mal, j'en sais rien du tout. Vous voyez? Mais encore une fois, le sentiment n'a rien à voir avec ça. Je sens que telle personne a raison. Non, on ne sent pas. Vous comprenez? On ne sent pas les choses, il faut arriver à voir les choses telles qu'elles sont. La foi, encore une fois, n'a rien à voir avec le sentiment. Et c'est ça qui tue les gens. Le modernisme, c'est d'abord un fanatique de sentimentalisme. Il faut qu'il sente quelque chose. Il faut que mon petit palpitant batte à 300 coups à la minute, alors à ce moment-là, ça doit être vrai. Vous voyez? Bon, dès que vous commencez à vouloir mettre les sentiments là-dedans, vous ne pouvez plus voir la vérité. Et les exemples pratiques. Est-ce que deux personnes qui sont amoureuses l'une de l'autre sont capables de réfléchir correctement? Non, pourquoi? C'est le même exemple. Et c'est les sentiments qui prennent commande de tout. Le sentiment commande, et puis à partir du moment où le sentiment prend les décisions, ben, l'intelligence ne peut plus rien faire. Or, l'intelligence doit contrôler les sentiments. Pourquoi les sentiments? C'est le domaine de la passion. Je vous ai expliqué, les passions doivent être soumises à l'irascible, l'irascible à la volonté à l'intelligence. Si je dis que le sentiment contrôle tout, à ce moment, on ne peut plus rien faire. C'est pour ça que je dis souvent, quand les jeunes viennent me voir et qu'ils pensent un petit peu au mariage, souvent, ils sont tellement amoureux l'un de l'autre qu'ils n'écoutent même plus ce que je dis. Parce qu'ils sont contents de se regarder dans le blanc des yeux pendant tout le temps que je les vois. Et puis, je peux raconter n'importe quoi. C'est...
Oui, oui.
Elle est comme ça. Elle est mignonne, elle est mignonne. Qu'est-ce que je viens de dire? Elle est mignonne. Non, ce n'est pas ce que je viens de dire. Qu'est-ce que je viens de raconter? Et ils sont incapables de comprendre quoi que ce soit que je viens d'expliquer. Parce qu'ils ne réagissent plus. Vous voyez? Donc, il faudrait, ce n'est pas évident. C'est plutôt rare même. Ne tombez pas amoureux de quelqu'un, pour les jeunes qui sont en âge de se marier, ne tombez pas amoureux de quelqu'un avant d'avoir utilisé d'abord votre intelligence. Je juge avec l'intelligence, et une fois que l'intelligence a jugé, à ce moment-là, je préfère introduire les sentiments. Ce sont les sentiments qui travaillent les premiers. J'ai un cœur gros comme une pastèque, et puis plus dirigé par le cœur. C'est le problème des adolescents, ou des adolescentes. L'adolescente, c'est ça. Et l'adolescent aussi, d'ailleurs. Hein. C'est qu'une adolescente. Définition d'une adolescente. D'un adolescent. Voilà.
Phlegmatique.
Non, c'est pas ça. Définition d'un adolescent ou d'un adolescent. Quelqu'un qui, par nature même, utilise son cœur en utilisant sa cervelle. Mm. C'est ça, un adolescent. Ou, autre définition, un adolescent, c'est quelqu'un qui a un cœur gros comme une pastèque. Et un cerveau qui a la taille d'un quart de pois chiche qui est en train de se développer. Le problème, c'est que. Faites-moi dire ce que j'ai pas dit. J'ai pas dit que les adolescents sont bêtes. Je dis que l'adolescent utilise d'abord son cœur. Or, le cœur, c'est ça le drame, le cœur grossit plus rapidement que le cerveau. Le cerveau suit, mais suit au bout d'un certain temps. Et donc, si je suis. Mon cœur, le cœur va diriger. Il est capital que le cœur soit dirigé par l'intelligence. D'où il faut que les adolescents, encore une fois, c'est facile à dire, pas évident à réaliser, il faudrait que les adolescents s'interdisent de tomber amoureux ou amoureuse tant que le cerveau n'a pas pris sa taille normale. Parce que le cœur est énorme, le cerveau tout petit, et puis lentement, le cerveau va se diminuer, va augmenter de taille. Bon. Une fois que le cerveau a pris sa taille normale, à ce moment-là, le cerveau va pouvoir contrôler le cœur. Si vous avez une cervelle grosse comme un quart de pois chiche, qu'est-ce qui va commander? C'est le cœur qui va commander. Et pour choisir un mari, pour choisir une épouse, si vous utilisez votre cœur avant d'utiliser votre intelligence, ou même c'est pire que ça, en général, ils n'utilisent que le cœur parce que l'intelligence n'est pas encore là, il est encore en vacances quelque part, eh bien, c'est des catastrophes, évidemment. Vous voyez? Pourquoi est-ce qu'au Moyen-Âge, par exemple, il n'y avait pratiquement pas de divorce? Il y en avait, mais enfin, c'était rarissime. Parce que les jeunes, les jeunes hommes, ne se mariaient pas à 18 ans. Ils se mariaient quand? Ils se mariaient quand ils avaient fini leur formation professionnelle. Parce qu'ils avaient terminé, ils avaient même dans des Avant, c'était comme ça. Quand les gens étaient en formation, ils n'avaient pas le droit de se marier. Dans l'armée, je pense que c'est plus comme ça maintenant, ça a dû être supprimé, évidemment. Mais à Saint-Cyr, à Couët-Cuidant, en principe, avant, c'était comme ça. C'est-à-dire, quand un jeune est en formation pour devenir sous-officier ou officier, il est en état de formation. C'est pas le moment de se marier, donc il n'a pas le droit de se marier. Bon, maintenant, ça a dû changer. Et c'est pour sa protection, d'ailleurs. Alors, les gens modernes, qu'est-ce qu'ils vont dire ? C'est une violation, un viol terrible de ma liberté. Mais non, puisque vous n'êtes pas capable de choisir maintenant, on attend. Et on vous protège en vous obligeant à attendre. Bon. Donc c'est pour ça que quand quelqu'un, en général, un jeune homme ou une jeune fille de 17 ans, veut choisir un époux ou une épouse, il va utiliser les sentiments. Or, les sentiments, ça ne dure pas. Donc, je dirais, c'est facile à dire, difficile à faire, parce que dans la pratique, on ne peut pas diriger tout ça comme on veut. Hein. Quand monsieur tombe amoureux de mademoiselle, ou mademoiselle tombe amoureux de monsieur, ça ne se contrôle pas très bien. Ça, c'est sûr que c'est... Mais il faut s'obliger. Même si je commence à avoir des sentiments pour telle personne, s'obliger à attendre. Voilà, je commence à avoir des sentiments pour telle personne, mais ma cervelle n'est pas encore formée. J'attends que la cervelle soit formée pour pouvoir contrôler mes sentiments avec la cervelle.
Je vais attendre encore un
peu. Alors, dans ce cas-là, la cervelle peut être d'accord avec le choix du cœur, et en certains cas, non. C'est pour ça qu'il y a tellement de divorces aujourd'hui. C'est pour ça que ça ne tient plus. Pourquoi ? Parce que les gens se sont mariés sur un coup de tête, en utilisant leurs sentiments. Et comme les gens qui se sont mariés, si vous voulez, se sont mariés avec un amour de jeunesse. Bon, vous savez, quand j'avais 5 ans, j'étais amoureux fou de telle jeune fille, de telle petite fille. Bon, maintenant j'en ai 15, alors il faut que je respecte cet amour que j'avais pour cette petite fille quand elle avait 5 ans. Maintenant elle en a 15. Mais c'est pas parce que vous étiez amoureux de cette petite fille quand vous avez attiré par cette petite ou ce petit parce qu'il avait 5 ans que ça veut dire qu'aujourd'hui à 15 ans on fait la même chose. Pourquoi ? Parce que vous grandissez et donc votre cervelle va grandir. Vous voyez ? Bon, une autre définition d'un adolescent ou d'une adolescente. On peut dire un adolescent c'est ou une adolescente, c'est l'enjeu des adolescents. Pour tout le monde, hein, pas pour vous, rassurez-vous. Un adolescent, c'est quelqu'un qui a un cœur et un cerveau. Le neurone entre les deux n'est pas encore fait. Il n'y a pas de communication entre les deux. Qu'est-ce que c'est qu'un neurone ? Un neurone, c'est un nerf. Bon. Il n'y a pas encore le nerf qui part du cœur et qui va à l'intelligence. Il n'est pas encore là. Ce qui se fait lentement. Donc ça pousse des deux côtés, mais ils ne sont pas encore réunis. Donc je suis mon cœur. Quand je suis vers votre cœur, vous êtes droit dans le mur. Non pas parce que ça se mauvais. Mais il faut contrôler impérativement les sentiments, pas la foi. C'est pareil pour l'exemple que je viens de vous donner. Qu'est-ce qui est plus important, le sentiment ou la foi ? La foi. C'est la foi qui dirige. Imaginez quelqu'un qui refuse d'avoir le contrôle de ses sentiments par la foi et qui contrôle la foi par les sentiments. Pourquoi c'est dangereux ? Parce que les sentiments, ça change tout le temps. Vous pouvez avoir tel sentiment pour telle chose, et puis le lendemain, ça a changé complètement. Vous voyez ? C'est pour ça qu'il faut impérativement, ça c'est pas facile du tout, impérativement s'obliger à prendre du temps. Donc, conclusion, vous allez me dire, ça n'a rien à voir avec le modernisme, ça a quand même un rapport. Les adolescents, quelle est la façon... Bougez, hein, si le soleil vous gêne. Hein, vous voyez, derrière mon dos, ça ne me gêne pas, mais... Un adolescent, quelqu'un qui, par définition, va devoir être protégé. Qui sont les protecteurs naturels des adolescents ?
Les parents,
évidemment. Les parents. Donc le rôle des parents, c'est de protéger les adolescents, les interdire d'utiliser leur cœur avant d'utiliser leur intelligence. Bon courage. Mais vous essayez quand même. Vous voyez ? Donc c'est la partie raisonnable doit être donnée par les parents. Alors je donne un autre exemple, on peut hurler les modernes. Pourquoi il n'y avait pratiquement jamais de divorce au Moyen-Âge? Pratiquement pas. Qui faisait les choix pour les mariages?
Les parents.
Les parents.
Non, pas les prêtres, non. Non, non, mais ça ne regarde pas. C'était... Les parents.
C'était les parents.
Les parents. Donc, une famille avait une jeune fille qui avait 18-20 ans, bon, qui commençait à être suffisamment mûre, qui pensait au mariage. Bon, les parents allaient travailler ensemble, bien voilà, il faudrait un jeune homme de avec tel type de tempérament, tel type de qualité, pour que ça colle bien avec notre fille. On connaît telle famille qui a justement un jeune homme qui a 22 ans, là il vient de terminer ses études, il vient de terminer sa formation professionnelle, ça pourrait marcher. Et à ce moment-là, les parents viennent présenter le jeune à la jeune fille. Alors attention, ça ne veut pas dire pour autant, ça ne veut pas dire ce que je n'ai pas dit, ça ne veut pas dire pour autant que la jeune fille doit suivre impérativement le conseil des parents. J'en veux pour preuve que quand un prêtre fait ce qu'on appelle l'enquête canonique, qui est obligatoire avant le mariage, je suis obligé de voir le futur seul et la future seule, sans aucun autre témoin, même pas les parents. Je suis obligé de voir la demoiselle tout seul et le jeune homme tout seul. Et à ce moment-là, je vais lui poser la question, est-ce que vous êtes libre de choisir cette personne? Si la personne me dit, c'est les parents qui ont décidé pour moi, et moi je ne l'aime pas, je n'ai pas envie de l'épouser, pas de mariage. Si la jeune fille me dit, ce n'est pas sans doute le jeune homme que j'aurais choisi, mais je connais mes parents, ils ont du bon sens, ils me connaissent, ils savent ce qui est le mieux pour moi, donc je leur fais confiance dans leur jugement. À ce moment-là, ça peut marcher. Vous voyez ? Quand on explique ça aux jeunes, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est de l'esclavage du Moyen-Âge. Mais non, ce n'est pas de l'esclavage. C'est pour ça que les mariages tenaient avant. Parce que les parents qui choisissent, croyez qu'ils n'ont pas l'expérience des conditions du mariage. Demandez aux gens qui sont mariés si le mariage c'est une partie de plaisir.
Oui,
de temps en temps. Mais pas tout le temps. Et même, c'est même souvent pas une partie de plaisir du tout. Et bon, parce que monsieur a ses idées, madame a ses idées. Et puis ça se dispute sec. Ça se dispute sec. Ne me dites pas que ça ne vous est jamais arrivé. C'est pour ça que quand je prépare des jeunes au mariage et que je vais vérifier si ça a des chances de tenir, une des premières questions que je vais poser, c'est aux deux jeunes, est-ce que vous avez déjà eu des disputes? Est-ce que vous êtes déjà disputé? Si les jeunes me disent, vous savez, ça baigne dans lui, aucun problème, je l'aime. Monsieur, votre mariage ne tiendra pas. Mademoiselle, votre mariage ne tiendra pas.
Pourquoi?
Parce que c'est la preuve que vous n'avez jamais parlé des sujets qui fâchent.
Pourtant, si.
Nous, ça fait 23 ans
maintenant. Non, mais attendez, je ne dis pas que c'est comme ça tout le temps, mais c'est quand même des règles générales qu'il faut suivre. Mmh. Vous voyez, il faut avoir le courage de parler des sujets qui fâchent. Et c'est là où le rôle des parents va intervenir. Parce qu'une jeune fille est amoureuse d'un homme, au contraire, les parents s'en rendent compte. La première chose que va faire une jeune fille qui tombe amoureuse de quelqu'un, c'est d'en parler à ses parents. Non. Oui. Et ça arrive avec le prêtre. Vous avez dit que c'était le prêtre qui choisissait pas. Le prêtre, il n'y a rien à voir là-dedans. Cependant, le prêtre peut donner son opinion quand on lui demande. Moi, ça m'est arrivé quelquefois, c'est assez rare, mais ça arrive. Dans une paroisse, il y a un jeune homme qui vient de me voir, qui me dit, oh, monsieur l'abbé, je suis en âge de me marier, j'ai fini mon boulot, j'ai fini ma formation, j'ai trouvé un boulot, j'ai un CDI, je ne sais pas quoi. Voilà, et je pense à me marier, j'ai pensé à telle personne. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, parce qu'il y a une confession rentrée.
Alors moi, je ne peux pas utiliser la confession, de toute façon, jamais. Non, mais, au moins de l'extérieur, connaissant les familles, je peux dire, écoutez, à mon avis, ça ne marchera pas, pour telle et telle raison, parce qu'il y a une incompatibilité. Oui. Vous allez me dire, mais les incompatibilités, c'est toujours des choses importantes. Non, ça peut être des détails. Imaginez une jeune fille qui écoute que du baroque toute la journée, la musique baroque toute la journée, qui veut épouser un gars qui écoute du jazz toute la journée. Vous pouvez acheter un extincteur, hein, vous allez vite en avoir besoin. Vous voyez? Et ça, c'est capital. Vous voyez? C'est l'exemple même du modernisme. Le modernisme, si vous voulez, c'est quelqu'un qui n'utilise que ses sentiments. Et Saint-Pédis le dit expressément dans son encyclique Pachandi. Le moderniste écarte toute la foi et ne garde que les sentiments. La foi disparaît. Il n'y a plus de foi. Il n'y a plus que les sentiments. Je pense que... Oui. Et c'est fondamental à comprendre que si on veut garder la foi, il faut justement que les sentiments soient exclus du domaine de la foi. Les sentiments n'ont rien à voir avec la foi. C'est comme les gens qui nous disent, monsieur l'abbé, je prie quand j'en ai envie. Ben, on ne prie pas quand on a envie, c'est facile de prier quand tout va bien. Le bon Dieu, qu'est-ce qu'il vous demande? De prier aussi quand vous n'avez pas envie. C'est beaucoup plus méritoire de prier quand on n'en a pas envie que de prier quand on en a envie, vous comprenez? Alors, Saint Pédis le dit bien, donc je tiens très certainement et professe sincèrement que la foi n'est pas un sentiment religieux qui héberge les ténèbres du subconscient. Il y a des philosophies qui suivent ces bêtises-là. Comment ça s'appelle la philosophie qui suit justement constamment le subconscient et qui dit que le subconscient doit déterminer le conscient. C'est la psychanalyse.
Ah, Freud.
Freud, Sigmund Freud, c'est ça.
Oui, c'est ça.
Bon. Qu'est-ce que dit la psychanalyse? La psychanalyse, c'est une, si vous voulez, c'est du modernisme en matière de psychologie. Qu'est-ce que dit la psychanalyse? La psychanalyse, il dit, vous avez un subconscient. L'Église catholique vous dit qu'il faut bloquer ce subconscient dans la mesure où ce subconscient s'écarte de la loi du bon Dieu. Vous avez des mauvaises idées, par exemple, qui vous passent par la cervelle. C'est le subconscient qui travaille. L'Église catholique vous dit, attention, si ces mauvaises idées, si ces idées qui passent s'opposent à la foi catholique, s'opposent à la moralité, s'opposent au commandement de Dieu, je dois les bloquer. Qu'est-ce que dit Freud? Non, ce subconscient doit au contraire diriger la conscience. Il faut donc soumettre la conscience au subconscient. Un catholique va dire, on va soumettre le subconscient à la conscience. Et la conscience est dirigée par quoi? Par les commandements. La conscience, c'est ça. La conscience est dirigée par les commandements. C'est les commandements qui vont me dire, à cause de mon libre arbitre, je pense telle chose. Et ça s'oppose à la foi catholique, puisque la foi catholique me dit, tu ne désireras pas le bientôt du prochain. Donc j'ai actuellement une petite idée dans la tête, peut-être que je pourrais piquer la propriété du voisin. Attention, Dieu a dit, tu ne voudras pas. Donc, l'intelligence va intervenir pour bloquer le subconscient. D'accord? Mais Freud dit le contraire. Et Freud va jusqu'à dire que celui qui bloque le subconscient, c'est la foi catholique. C'est pour ça que tous les psychanalystes sont tous antichrétiens. Pratiquement tous. Il n'est pas possible pour un psychanalyste de ne pas être antichrétien. Ils sont tous antichrétiens parce que pour eux, il y a, si vous voulez, des idées qui sont au fond de nous-mêmes. Et si l'homme est malheureux, c'est parce que l'Église catholique arrive avec ses gros sabots, elle lui empêche de penser ce qu'il veut. Vous voyez? Oui, on va avec des principes pareils, ça peut aller extrêmement loin. Vous voyez? Mais ça a fait un dégât. Quand j'étais en médecine, déjà les idées de Freud se répandaient partout, c'était autour des années 70. Hein. Mais le subconscient, les idées de Freud se répandaient partout. Et Freud allait par exemple jusqu'à dire que, en fait, il faut défouler sa conscience. La conscience bloque. Empêche le défoulement. Donc, au contraire, enlevez la conscience pour que vous puissiez. Pardon ? Il faut enlever la conscience pour que le subconscient puisse travailler. Vous voyez ? Bon, c'est pareil, bon, pour reprendre l'exemple que je vous donnais auparavant. Bon, vous avez une idée qui passe par la cervelle qui va contre la foi ou les mœurs. Bon, ça, c'est le subconscient qui travaille en quelque sorte. Qu'est-ce qu'il va faire? La conscience va travailler. Si vous avez une conscience catholique, vous allez opposer à quoi? Vous allez opposer les commandements de Dieu. Dieu a dit ça, donc je n'ai pas le droit de penser ça, puisque ça va contre le commandement de Dieu. Donc, je prends les moyens pour lutter contre ce mauvais subconscient. Je prends les moyens, par exemple, la confession, par exemple, la communion, par exemple, la pénitence, par exemple, la prière, pour lutter contre ça. Vous voyez? Et si je suis le modernisme, qui pense qu'il faut un sentiment aveugle qui émerge des ténèbres du subconscient, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le subconscient qui va décider ce que je peux croire, ce que je peux pas croire. Donc quand ça me plaît pas, quand ça me plaît, je garde, quand ça me plaît pas, je garde pas. Les modernistes sont comme ça. Vous leur donnez un catéchisme, on dit, ah oui, mais le pape se trompe, là je suis d'accord, oui. Là, non, ça va pas. Vous voyez? Donc il y a tout un travail de formation pour apprendre à nos adolescents justement à ne pas suivre leurs sentiments tant que l'intelligence n'est pas là pour réguler le cœur. D'accord ? Donc ne me faites pas dire que ce que j'ai pas dit. Bon, j'ai pas dit que les adolescents étaient tous des imbéciles. J'ai pas dit ça. Bon, et j'ai pas l'intention de le dire. J'ai pas dit qu'ils étaient pas intelligents. Je dis que l'intelligence a toujours un retard dans la formation par rapport aux sentiments. Les sentiments passent d'abord. Et c'est en plus très différent, en principe, je dis bien en principe, entre les hommes et les femmes, pour une différence essentielle entre l'homme et la femme. La femme, par nature, utilise son intelligence d'abord ou son cœur d'abord ? Le cœur. Est-ce que c'est une mauvaise chose ? Est-ce que c'est une mauvaise chose pour une femme d'utiliser son cœur et d'utiliser son intelligence ? Non ? C'est sa nature. C'est pour ça que la femme cherche naturellement à plaire. Imaginez une femme qui me dise, une jeune femme ou une femme, qui me dise au confessionnal, « Monsieur l'abbé, je suis un peu coquette. » Je vais dire quoi ? « Dieu gracias, heureusement vous êtes coquette. » Et si un homme me dit, confessionnal, « Monsieur l'abbé, je suis un peu coquet. » Là, c'est autre chose. Il est normal qu'une femme soit coquette. Évidemment, avec raison, si elle passe 3 heures par jour à se mettre de la poudre de riz au bout du nez, pour se comparer à toutes les filles du coin, ça va plus, parce que c'est déraisonnable. Il est normal qu'une femme soit coquette. Et je dirais, il est anormal qu'une femme ne soit pas coquette. Par contre, l'homme doit, en principe, l'homme est quelqu'un qui, par nature, doit utiliser d'abord son intelligence avant d'utiliser son cœur. Et avec tout ce qui se passe dans le monde moderne, on voit très bien que c'est comme ça qu'il détruit la civilisation aujourd'hui. Justement, en laissant croire que l'homme et la femme sont identiques. Et même en poussant les hommes à agir comme des femmes, et à penser comme des femmes. Donc ils vont pousser l'homme à utiliser d'abord son cœur avant d'utiliser son intelligence. Et pousser la femme à utiliser d'abord son intelligence avant d'utiliser son cœur. Encore une fois, je ne dis pas que l'homme n'a pas de cœur, ou que la femme n'a pas d'intelligence, ce n'est pas ce que je dis du tout. Quand on explique ces choses-là, les gens se mettent en colère tout de suite, vous êtes contre les femmes. Mais non, pas du tout. Simplement, la femme a un rôle complémentaire de l'homme. C'est pour ça que les femmes ont un rôle tout particulier dans la famille. Elles doivent être formées complètement différemment de la façon dont vous éduquez vos garçons, parce que la femme aura un rôle différent dans la famille. Et les catastrophes qui arrivent dans les familles aujourd'hui, qui ne tiennent plus la route du tout, c'est en grande partie parce que la femme a été dévoyée par les idées modernes, qu'elles vont attraper par Internet surtout, et avoir ces idées qu'elles sont égales à l'homme, qu'elles sont identiques à l'homme. Elles ne se rendent pas compte que la femme a un rôle spécial pour elle, spécifique pour elle, et que l'homme en a un autre. Et que ces rôles sont complémentaires. Donc la femme et l'homme ne sont pas égaux, mais complémentaires. On dit la femme est le cœur, et l'homme est la tête. Qu'est-ce qui est plus important, la tête ou le cœur ?
Les deux.
Parce que si un homme n'a pas de tête, c'est un cadavre. Et si un homme n'a pas de cœur, c'est aussi un cadavre. Donc on peut discuter pendant des heures et des heures pour savoir qu'est-ce qui est plus important, le cœur ou l'intelligence. Les deux sont importants, les deux sont nécessaires. Les deux sont des organes absolument vitaux de l'individu humain. Oui, mais on n'éduque pas un garçon comme on éduque une fille, justement parce qu'il y a une complémentarité, un ordre naturel voulu par Dieu. Et vous allez me dire, mais tout ça n'a rien à voir avec le modernisme. Mais ça a à voir justement avec le modernisme, parce que le modernisme déconnecte de la réalité. C'est pour ça que tous les gens qui sont imprégnés de ces idées modernistes sont incapables d'éduquer leurs enfants. Ça va tout de suite au niveau des enfants. En général, quand on voit des enfants qui ne sont pas éduqués du tout, qui font n'importe quoi dans la maison, en général, c'est quand ils sont catholiques, les parents sont modernistes. Ils sont imprégnés de modernisme, et parce qu'ils sont imprégnés de modernisme, ils sont absolument incapables, justement, de faire d'avoir ce réalisme. N'oubliez pas que la philosophie réelle, c'est la philosophie objectiviste. C'est pour ça qu'on dit que saint Thomas d'Aquin est le prince du réalisme. Et quand on voit par exemple toutes les bêtises faites par le gouvernement actuel, avec toute la théorie du genre et tous ces machins-là, c'est des gens qui sont complètement déconnectés du réel. Absolument déconnectés du réel. Quand on voit les dernières bêtises des écoles modernes publiques qui veulent supprimer la fête des mères parce qu'il ne faut pas aller contre les enfants qui ont de papa ou de maman, comme s'il pouvait y avoir un enfant qui puisse arriver que deux hommes d'un côté ou deux femmes d'un côté, quand ce sera possible, on va prévenir. Donc on prend vraiment les gens pour des imbéciles. Et quand les gens sont déconnectés du réel et qu'ils vivent dans le virtuel complet, ils croient n'importe quoi. Oui. Eh bien, en matière sociale, ça donne les catastrophes qu'on voit. C'est la même chose dans l'Église. Quand je commence à me déconnecter du réel, je fais du n'importe quoi. Et le réel dans l'église, c'est quoi? Qu'est-ce qui est le stable? La stabilité, elle vient d'où? Elle vient du catéchisme. C'est le catéchisme qui nous donne cette stabilité. Pourquoi? Parce que notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu. Il ne faut pas oublier encore une chose qu'on oublie encore beaucoup trop. Et cette personne m'a dit, à laquelle je parlais il n'y a pas longtemps, là, m'a sorti la même chose. Elle m'a dit, mais le catéchisme, ça peut changer. Mais non, le catéchisme, ça ne peut pas changer, justement. Le catéchisme ne change pas, parce que le catéchisme, c'est les dépôts de la foi catholique. C'est pour ça que le catéchisme, à partir du moment où il est reconnu officiellement par un pape, qui garantit la véracité de ce catéchisme et qui l'impose comme dogme de foi, comme règle de la foi pour toute la foi catholique. C'est un pape qui parle comme pape sur la foi et les mœurs, c'est qu'intention de l'obliger toute l'Église. C'est infaillible. Le catéchisme de Saint-Pélie, c'est infaillible, attention. Le catéchisme du Concile de Trente est infaillible également. Et c'est ça notre force. Et quand vous enlevez ça de la foi, vous enlevez la colonne vertébrale de cette personne. Et si la personne n'a plus de colonne vertébrale, tout s'écroule. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc ils sont en train de tout détruire. Et les conséquences vont être épouvantables au niveau de la société, pas simplement au niveau des familles. Mais les parents vont se retrouver incapables d'éduquer leurs enfants à partir du moment où on accepte des bêtises pareilles. Vous voyez ? Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a la même chose en matière spirituelle avec le modernisme. Le modernisme est contre nature. Le modernisme est contre nature parce que c'est le subconscient qui va prendre la place du conscient. Vous voyez ? Le subconscient, si vous voulez, c'est la folle du logis qui va commencer à diriger la maison. La folle du logis, c'est quoi ? L'imagination. Avec l'imagination, la folle du logis. Alors, il y a encore quelques minutes, là, quelle heure il est ? Est-ce que bon. En bas de la page, là, vous n'avez pas le texte, j'aurais pu vous donner copie. Je me soumets ainsi, aussi, avec la révérence voulue, et j'adhère de tout mon cœur à toutes les condamnations, déclarations, prescriptions qui se trouvent dans l'encyclique Pascens Dei, dans le décret Lamentabili, notamment sur ce qu'on appelle l'histoire des dogmes. Bon. Lorsque le pape a condamné le modernisme, c'était précédé d'un premier texte qui s'appelait Lamentabili. C'est le nom, le premier mot du texte. Lamentabili, c'est juillet 1907. Pascens Dei, c'est septembre 1907. La Lamentabili prépare Pascens Dei. Et un point fondamental sur lequel Saint-Pélis insiste lourdement, c'est le refus de l'évolution des dogmes. Ça, c'est la base du modernisme actuel dans l'Église. L'évolution des dogmes. Et les dogmes sont vrais pour un certain temps. Rappelez-vous l'exemple que je vous ai donné au début de ce cours sur des gens qui prétendent croire à l'infaillibilité pontificale, mais qui disent l'infaillibilité, c'est uniquement pour un temps. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que je crois en l'évolutionnisme. Donc si vous croyez en l'évolutionnisme, si vous croyez en l'agnosticisme, si vous croyez en l'immanentisme, vous êtes déjà moderniste. Rappelez-vous, Saint-Pélis qui dit bien que ce sont les trois faisceaux, les trois bases du modernisme. L'immanentisme, l'agnosticisme, l'évolutionnisme. C'est-à-dire, la vérité n'existe plus et tout change selon les circonstances. Les circonstances font la vérité. Vous voyez ? Et avec le nouveau ministre de l'Éducation nationale, bon courage, hein ? Bon, et voir ce qui va se passer. Bon. Et c'est exactement ça maintenant, absolument partout. Donc il importe, puisqu'on ne pourra pas malheureusement changer quoi que ce soit au niveau du gouvernement, ce qu'il faut, c'est qu'au moins dans les familles catholiques, nos familles aient compris ces choses-là et luttent pour empêcher, protéger leurs enfants, pour que les enfants ne suivent pas leur cœur, mais suivent leur intelligence. Vous voyez ? Et donc, comment une jeune fille, parce que c'est surtout la jeune fille qui va utiliser son cœur avant, comment une jeune fille se protège ? En dévoilant à ceux qui peuvent l'aider les tentations qu'elle peut avoir. Rappelez les règles de sainteté, les règles de discernement des esprits ? Vous vous rappelez les quatre règles ? Quatre grandes règles ? Comment on fait pour lutter quand t'es désolation ?
On arrête tout.
Première règle, règle numéro 5, on ne change rien. On a ça. Ah oui. Deuxième règle.
On agit contre.
On essaie de déterminer où le démon me mène et je fais le contraire. Troisième règle. Je dévoile mes tentations à quelqu'un qui peut aider. Ça, c'est la règle pour mademoiselle, pour monsieur aussi, pour tout le monde, tous les adolescents. Savoir avoir le courage de parler à ses parents. Et quatrième règle, je protège mon point faible. La lutte contre les défauts particuliers.
J'ai l'arquebuse. Hein? Je mange de l'arquebuse. Ah ouais. Boisson là qui est bien.
Ah ouais, ouais. Alors ça, c'est fondamental. Vous voyez? Donc, une jeune fille se protégera puisque la jeune fille a tendance à utiliser son cœur, à utiliser son intelligence, ce qui est normal, elle est faite pour ça. Bon. Eh bien, il va falloir qu'elle dévoile ses idées qui lui passent par la cervelle, dans certains cas, surtout à sa maman, qui va pouvoir rectifier un peu le tir. Et le drame, c'est qu'une jeune fille, dans le monde moderne, même dans les milieux modernistes, une jeune fille va commencer à tomber amoureuse de quelqu'un et n'en parle pas à ses parents, le cache. Le simple fait qu'elle le cache, ça veut dire qu'elle a déjà une mauvaise conscience, elle sait qu'elle fait quelque chose de mal. Et à tel point que si quelqu'un m'en parle au confessionnal, monsieur l'abbé, je suis amoureux, très amoureuse de quelqu'un, qu'est-ce que vous en pensez? Première question que je lui posais, est-ce que vous en avez parlé à vos parents? Si vous dites, ah ben non, monsieur l'abbé, alors c'est certainement pas de Dieu. Par contre, quelqu'un qui me dit, monsieur l'abbé, j'en ai parlé à mes parents tout de suite, pour me protéger, à ce moment-là, ça c'est vraisemblablement de Dieu. Vous voyez? Et c'est la même chose pour nous prêtres, quand quelqu'un, c'est très rare même, hélas, quand un jeune homme vient dans la parole de la paroisse, me dit, voilà, monsieur l'abbé, je suis en train de tomber amoureux d'une jeune fille, mais avant de tomber vraiment amoureux, je commence à être attiré par elle, avant d'être tombé vraiment complètement amoureux d'elle, je veux être sûr que c'est la volonté du bon Dieu. Donc qu'est-ce que vous en pensez? Encore une fois, attention, c'est parfois délicat pour le prêtre, parce qu'il ne peut jamais utiliser ce qu'il sait en confession. Donc il doit faire abstraction de tout ça. Et donc, c'est pas évident, parce que le prêtre, s'il sait que la personne est un bandit de première, mais qu'il pense que c'est un saint, il est obligé de dire, je pense que c'est un saint, même s'il sait que c'est un bandit, mais qu'il le sait uniquement par la confession. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'il faut prendre aussi avec un grain de sel, comme on dit, les conseils que vous donne le prêtre de ce côté-là, parce que le prêtre ne peut jamais utiliser la confession. Cependant, quand quelqu'un vient voir le prêtre, demande, qu'est-ce que vous pensez de telle personne? Ça prouve que cette personne cherche le bien. Vous voyez? En général, c'est des mariages qui tiennent la route. On le voit tout de suite, les mariages qui ne tiennent pas la route sont des mariages où tout est basé sur les sentiments. Quand les sentiments ne durent pas, l'amour ne va pas durer. Et l'amour ne va pas durer. Hein? Constamment, on voit ça, je vais parfois donner des exemples, mais des conseils que les gens ne comprennent pas, ils pensent que je suis fou, mais vous savez, elle est super mignonne. Oui, elle est super mignonne parce qu'elle s'est pomponnée pendant 3 ou 4 heures au miroir. Mais à quoi elle ressemble quand c'est pas pomponné devant le miroir? Alors voilà, vous allez la voir à 8h du matin quand elle sort du lit, les cheveux comme ça, et puis sort du lit, puis se sonner à la porte, et vous voyez, c'est toujours amoureuse d'elle. Bon, vous allez vite partir en courant. Bon. Alors vous allez vous promener avec elle quand il pleut un gros orage, là, qu'il pleut pendant une demi-heure, et puis quand la poudre de riz est partie, qu'il n'y a plus rien, à ce moment-là, vous la regardez dans la glace, vous la regardez en face, regardez si elle est toujours aussi belle. Et si vous êtes toujours amoureux d'elle dans ce cas-là, c'est le truc qui tienne. S'il faut que la fille ait passé 2 heures devant le miroir pour que votre futur soit amoureux de vous, à ce moment-là, il y a vraiment un problème. Ce que j'essaie de vous expliquer, ce sont des exemples que je donne pour faire comprendre que le modernisme, c'est ça. C'est le sentimentalisme qui prend la place. Le cœur qui vient prendre le contrôle de la foi. Là, c'est pas le cœur qui prend le contrôle de la foi, mais c'est l'inverse qui doit se passer. Voyez? Alors, les guides vous demandent donc, c'est la conclusion de cette première partie du serment antimoderniste, donc, j'adhère de tout mon cœur à toutes les condamnations. Saint Pie X insiste, toutes les condamnations, déclarations et prescriptions. Pas à certaines d'entre elles. Je suis d'accord avec 95% des condamnations de Saint-Pélice, mais 5%, je ne suis pas d'accord. Ça ne va pas. Donc il faut surtout refuser l'évolution du dogme. Saint-Pélice va beaucoup insister là-dessus. L'histoire des dogmes. L'histoire des dogmes. On a le droit d'étudier le dogme, mais sans émettre l'idée que le dogme doit évoluer. Ça, c'est dans Bergoglio tout le temps. Et il ne cherche qu'une seule chose, c'est justement à faire évoluer le dogme en fonction des gens. C'est pas le monde qui doit, c'est pas l'Église qui doit s'adapter aux gens, c'est les gens qui doivent s'adapter à l'Église. C'est pas la même chose.
L'abbé Ratzinger tenait ce propos, je crois, quand il a vu
l'Église,
dans le Seigneur des Fables.
Ben oui, Monseigneur Lefebvre lui avait dit, mais qui on suit? On suit Pie IX qui condamne la liberté de conscience, ou on suit Vatican II qui dit que la liberté de conscience est un droit fondamental qui doit être respecté par tous les individus? Qui on suit? Et Monseigneur lui a dit, mais attendez, la condamnation par Pie IX de 1864 de liberté de conscience, c'est ex cathedra, c'est infaillible. Et Ratzinger avait répondu, était préfet de la Congrégation de la foi, il avait répondu à Monseigneur Lefebvre, c'est lui qui nous l'a dit, hein. Il a répondu, les textes infaillibles du temps de Pie IX étaient infaillibles pour son temps. Aujourd'hui, ils ne le sont plus parce que les choses ont changé. En gros, Ratzinger reconnaissait qu'il ne croyait pas à l'infaillibilité pontificale. Le pire, c'est que vous avez des gens qui vont sortir des choses pareilles, en disant, cette vérité est vraie en ce temps-là, à tel siècle, mais n'est plus vraie aujourd'hui, et qui vous disent... la bouche en cœur, je crois en l'infaillibilité pontificale. Mais si vous pensez que l'infaillibilité pontificale, c'est simplement pour une période de temps, vous ne croyez pas en l'infaillibilité pontificale. D'accord ? Bon, on va arrêter là. Je vais dire une prière pour terminer. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il.
Nos saints anges gardiens,
priez pour nous.
Saint Pilice,
priez pour nous.
Saint Joseph,
priez pour nous.
Saint Thomas d'Aquin,
priez pour nous.
Du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.